Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à cette table ronde qui s'intitule « Saper comme jamais, la mode entre normes et transgressions ». Donc, qui est organisée par la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Donc, cette conférence-là s'intègre dans le 10e printemps des sciences humaines et sociales et a pour thématique la marge. Donc, aujourd'hui, il sera question de mode, de vêtements griffés, de fripes, de sapes. Et pour cela, donc, l'ESAT est heureuse d'accueillir deux intervenants. Donc, nous avons Manuel Charpie, qui est historien et chargé de recherche au CNRS à Lille 3, si je ne me trompe pas, et également secrétaire de rédaction de la revue Mode Pratique, que j'ai ici. Et que, alors, pour les étudiants de l'ESAT, vous la trouvez au CDI. Donc, c'est une revue qui traite de l'histoire de la mode et du vêtement. Et donc, Manuel Charpie nous parlera donc aujourd'hui de l'histoire de la mode et du vêtement et de comment celui-ci contribue à construire des identités sociales. Donc, il sera question avec lui de sapologie, ou d'histoire de la mode entre le Congo et Paris. Voilà. Et ensuite, nous accueillons aussi Élodie Juge, donc qui est à terre à l'Institut du marketing et du management de la distribution de Roubaix et membre du labo Mercure rattaché à la Schema School Business. Élodie Juge nous présentera son travail de recherche en sciences et gestion et marketing. Pour parler un petit peu de son parcours, après une longue expérience en tant que commerçante dans les jeux vidéo, elle reprend ses études et entame un travail de recherche doctorale qu'elle suit toujours actuellement. Elle se questionne donc sur le développement du e-commerce et plus précisément sur le phénomène des vide-dressing, sur les pratiques autour de la consommation collaborative et essaye d'analyser comment ces pratiques-là contribuent à la montée en compétence des consommateurs. Voilà, donc les présentations sont faites et je laisse maintenant la parole à Monsieur Manuel Charpie.
Merci. Merci pour l'invitation. Et donc, ouais, c'est un travail qui a démarré quand même il y a longtemps et en même temps qui a piétiné très longtemps. Il a démarré il y a à peu près une douzaine d'années, quelque chose comme ça. En gros, en croisant à Paris, à Barbès, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas un quartier populaire et un quartier historiquement d'immigration à Paris, en croisant donc des Congolais avec des vêtements et qui portaient des étiquettes sur leurs vêtements avec le prix et les marques. Donc ils se promenaient en ville en ayant conservé en gros ses attributs. Et à partir de là, donc, je me suis un peu intéressé à la chose. Il se trouve qu'il y a Justin Gandoulou, un sociologue congolais, qui avait écrit un bouquin assez génial. Donc, en gros, ceux qui veulent, à partir de maintenant, vous notez son nom, vous pouvez dormir jusqu'à la fin de la conférence, qui s'appelle De Paris à Bakongo, qui est un bouquin vraiment génial, qui est une enquête, une espèce de photographie du mouvement sapeur au début des années 80. Au moment de la construction, notamment de Beaubourg, où il y avait ce grand espace, ce grand trou urbain, cette grande zone urbaine au cœur de Paris, ces grandes friches. Et en fait, il finit son bouquin en disant « c'est un mouvement de subculture, et comme tous les mouvements de subculture, c'est un mouvement qui va mourir ». Puisque vous savez qu'une des définitions sociologie des subcultures, c'est que ce sont des mouvements plutôt éphémères. Donc, ça a été publié en 84. Et donc, là, au bout d'un moment, je me suis dit que, a priori, donc, ça n'était toujours pas mort, loin de là. Et donc, c'est un réflexe un peu bête en histoire, mais on se dit que si ça dure, c'est sans doute qu'il y a un enracinement peut-être plus ancien. Et donc, c'est un peu le point de départ. Je reviendrai sur Bachelor après, mais voilà, les vêtements parlent déjà d'eux-mêmes. Mais juste pour vous montrer, ça c'est une photo d'une boutique rue de Panama dans le 18e arrondissement, un des lieux de vente des vêtements de sapeurs. Et puis, en fait, en plongeant un peu dans les archives et notamment dans les images, et je reviendrai, les images jouent un rôle important, j'ai été quand même très frappé par des jeux de citations historiques, on va dire ça comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez le personnage à gauche, la photo date des années 2000. Et la photo juste à côté, c'est un chef, Mbetu, photographie à peu près de 1905. Vous voyez, les jeux de citations vestimentaires sont hyper clairs et hyper forts. Et en fait, quand on regarde les pratiques des sapeurs aujourd'hui, on a tout un tas de citations comme ça, d'éléments du passé. Et c'est un peu le point de départ, c'est de se dire, les vêtements eux-mêmes, en fait, racontent des histoires, portent des histoires. Et l'idée était de partir de ça. Pour faire court, donc, les sapeurs, c'est les membres, vous devez tous le savoir, mais c'est les membres d'une fausse société, d'un espèce de faux club à la fois très fermé et très ouvert qui s'appelle la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et donc les sapeurs en sont membres. Et vous devinez, je vous le signale tout de suite, le mot sap a tout un tas de définitions possibles. C'est pour ça qu'il est, en fait, il arrive au début des années 1980, et il est resté depuis. Avant ça, vous allez le voir, il y a eu plein d'autres noms de clubs. Mais évidemment, Société des ambianceurs des personnes élégantes, ça fonctionne comme acronyme. C'est en plus, je vous le signale aussi tout de suite, une façon de rire un peu des tics de l'administration française. Et puis, sapé, c'est évidemment le vêtement, dans l'argot notamment parisien. Et puis, sapé, en vocabulaire militaire, vous le savez peut-être, mais c'est attaquer un édifice à la base. Vous allez voir que c'est à peu près le programme des sapeurs. Première chose pour donc mener cette enquête, c'était l'idée d'aller du côté des circulations. En fait, je me suis posé la question toute bête. En général, quand on fait des enquêtes en histoire, on commence par des trucs très basiques. D'abord, trouver de l'iconographie. Vous voyez, dès les années 1900, on a des images quand même très, très proche de la culture sapeur actuelle, et puis se poser la question tout simplement de comment ce mouvement qui a donc démarré au Congo, dans le Congo colonisé, comment ces personnes se fournissaient en vêtements, est-ce qu'ils les fabriquaient eux-mêmes, est-ce qu'ils les achetaient, où est-ce qu'ils les achetaient, etc. Et vous le devinez, l'idée de pister le commerce de où on achète les fringues, etc., permet de comprendre un peu l'imaginaire qui s'y rattache, et tout ce que ça veut dire, y compris sur le plan économique. Donc, premier point très rapide, d'abord vous dire que c'est un commerce, le tissu et le vêtement, très ancien dans le Congo, sur toute la côte du Congo. Je vous montrerai une carte dans un instant. Ça démarre au XVIe siècle, en fait, avec l'arrivée des Portugais au Congo. Et je fais très, très court. Ça pourrait durer des heures sur ce chapitre-là, mais les Portugais arrivent au Congo. C'est à l'époque un très grand royaume extrêmement puissant, le royaume du Congo. Et encore une fois, je schématise, mais c'est vraiment ça. Ils arrivent et le roi du Congo dit « Pas de souci, je me convertis au catholicisme ». Ça se passe extrêmement bien, en quelque sorte. Sauf qu'ils vont découvrir assez vite que dès que les missionnaires tournent le dos, les Congolais abandonnent immédiatement les pratiques catholique, ou en tout cas les intègre à des pratiques locales. Mais en tout cas, il y a cette idée d'une espèce de conversion très rapide, y compris vestimentaire, du côté de la cour. C'est-à-dire du côté de la cour des rois du Congo, des rois du Luango, de Luanda, vous avez des pratiques vestimentaires de ce type-là. Ça, c'est un envoyé du roi du Congo. Donc, non seulement il porte des vêtements, vous le voyez, à l'européenne, extrêmement sophistiqués, mais en plus, il se fait peindre. Ça fait quand même deux niveaux de jeu avec les représentations européennes extrêmement fort. Ce qui va être très fort, c'est que le textile va tout de suite être au cœur des échanges entre ces deux sociétés, entre la société qui colonise, je mets des guillemets, puisqu'au début, ce n'est pas vraiment une colonisation, c'est plutôt une prise de pouvoir, mais on n'amène pas des populations européennes à s'installer au Congo. Mais en tout cas, voilà, des rapports de pouvoir. Et le tissu sert à peu près à toutes les transactions économiques. Ça sert à acheter des territoires. Donc, on mesure les surfaces avec des unités de tissu. Et ça va servir aussi, puisque vous savez que le Congo était un endroit important pour ça, dans le commerce d'esclaves. Donc, les esclaves, en fait, sont achetés avec l'unité monétaire pour acheter des esclaves. Je vais dire ça comme ça. C'est la pièce d'Inde. En fait, c'est une pièce de coton venue d'Inde. Donc, vous voyez, on mesure l'achat des personnes à partir du tissu. Donc, ça devient extrêmement important et très central, d'autant plus que c'est l'époque où les marchands d'esclaves européens déshabillent les esclaves. Vous le devinez que ça doit... Voilà, on peut partir de l'idée que ça frappe les esprits. Force les esclaves à se déshabiller pour des questions, dans l'imaginaire, en tout cas d'hygiène. Donc tous les esclaves embarqués sur les bateaux, etc., sont déshabillés. Donc vous le devinez, le tissu devient quelque chose d'assez important. Il n'empêche que le commerce du tissu reste extrêmement important sur toute la zone du Congo. Donc là, vous avez la RDC actuelle, Congo-Brazzaville et le Gabon, et puis Luanda, l'Angola. Et il faut considérer que là, je vais vous parler d'un Congo qui ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire en gros à la zone de l'ancien royaume du Congo. On va commercer énormément, et puis il y a un fantasme qui va se construire, c'est que c'est une population nue, ce qui n'est évidemment pas du tout vrai, mais en tout cas que les Européens vont construire comme ça, vont projeter comme ça, et donc tous les industriels, notamment roubaisiens, vont se dire qu'il y a là une infinité de gens à habiller, à couvrir, et donc vont développer un commerce extrêmement important. Et par bonheur, à partir des années 1840, on a énormément d'archives, puisque le ministère des colonies et de la marine va essayer d'encourager ce commerce-là. Qu'est-ce qu'on voit ? D'abord qu'on envoie énormément de bateaux, qu'il y a des allers-retours très importants entre les marchands qui partent vers le Congo et les industriels, encore une fois notamment de Roubaix. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir que je reprends les termes de l'époque, que les indigènes ont un goût. On appelle ça le goût des naturels dans toutes les correspondances. En gros, qu'on ne peut pas leur enfiler n'importe quoi. Ça, c'est un premier choc pour pas mal d'industriels, puisqu'en fait, vous avez pas mal d'industriels qui écrivent au ministère en disant, voilà, ça fait un mois qu'on est avec notre cargaison de chaussettes, notre cargaison de je sais pas quoi, de sous-vêtements, ou nos cargaisons de laine, et que personne ne veut, qu'on n'arrive pas à vendre, que la cour ne veut pas. Voilà. Donc, il y a cette découverte qui se met en place tout doucement, que les gens veulent de la qualité. Je vous donne juste un cas, parce qu'on est à Roubaix. Mais le ministère dit aux industriels roubaisiens de produire des tissus de laine, parce que les Congolais consomment beaucoup de tissus de laine. Les industriels le font, expédient, et en fait le retour c'est que c'est invendable parce que c'est de la camelote. Et donc il y a tout un échange assez drôle où les vendeurs sur place disent non mais en fait ils préfèrent commander directement au grand magasin parisien par correspondance, comme les colons européens. Mais ils ne veulent pas acheter cette production de mauvaise qualité. Vous avez évidemment, donc Roubaix joue un rôle assez important, mais vous avez aussi, vous le devinez, Manchester, enfin toute l'Angleterre va produire énormément aussi de tissus. Et puis il y a ce fantasme, encore une fois, qu'on va habiller. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'on va devoir habiller ces populations. Et on va avoir des quantités. Il y a une sorte de Larsen, je ne sais pas. Bon. Il y a peut-être un deuxième micro à éteindre, je ne sais pas. Bon, je continue. On a énormément de tailleurs en France qui, du coup, dans leur coin, s'imaginent partir au Congo et faire fortune. Je vous lis juste un extrait d'une lettre, mais il y en a plein. En gros, ils écrivent au ministère pour essayer de se faire payer un billet de bateau gratos. Et donc la lettre finit, donc là c'est un tailleur de QC, un endroit que vous connaissez peut-être, mais il y a quand même peu de chance. C'est un petit hameau à côté de Vichy. Je vous laisse deviner, à l'époque il y a environ 15 habitants. Et il écrit en 1884, j'aimerais aller coloniser au Congo. Et je désirais partir pour le. Il donne les dates. Avec ma famille et à seule fin de porter loin l'industrie de mon métier et le bon goût de la civilisation. Ça, c'est pour essayer d'avoir un billet de bateau pas cher. Mais il n'empêche, vous avez tout un tas de tailleurs comme ça qui imaginent, vous voyez, qu'il y a un espèce de continent à habiller. Alors, à côté d'eux, vous avez aussi tout. J'ai oublié de vous dire ça. Quand je vous parlais du goût des naturels tout à l'heure, on va essayer de faire ça. À gauche, c'est un. Sorte de document ethnographique sur les tissus fabriqués par les Congolais. À droite, c'est la version roubaisienne. On va essayer du coup de copier les tissus congolais pour essayer de leur vendre. Évidemment, ça ne marche pas vraiment non plus. Mais en tout cas, vous voyez qu'on essaie de s'adapter au goût de la population. L'autre commerce qui se met en place, ça va être tout le commerce de la fripe. En gros, je vais le dire autrement, on découvre que les Congolais veulent des objets fabriqués en Europe. OK ? En fait, ça n'a rien de surprenant. Il faut se dire qu'à l'époque, en France, c'est exactement pareil. Les Parisiens volent des objets fabriqués au Japon, volent des objets fabriqués en Chine, volent des objets fabriqués en Inde, achètent du coton quand il vient d'Inde, etc. En tout cas, il y a une sorte de prime à l'exotisme. Et ça donne, ça, ce sont des tombes, un attachement assez fort aux objets importés, tout simplement parce qu'ils sont rares. Et donc, pour répondre à cette demande, va se développer d'abord tout le commerce de la fripe. Là, je vous ai mis des exemples de photos. Je reviendrai sur ces photos un peu après, mais où on voit nettement qu'on est face à de la fripe. Vous voyez que c'est beaucoup d'uniformes militaires. Heureusement, pour le commerce de la fripe, il y a des changements de régime politique très fréquents au XIXe siècle en France. Et donc, à chaque fois, on change entièrement les uniformes militaires. Et donc, il y a des cargaisons à chaque changement de régime. Et puis, on réforme par ailleurs les vieux uniformes. Et pour beaucoup, ils finissent sur le continent africain. Dès les années 1850, vous avez des circuits extrêmement structurés d'exportation de la fripe, et donc on va avoir une consommation extrêmement forte. L'autre élément, pour essayer d'aller un peu vite, ça va être le développement des pratiques du commerce, pardon, des vêtements. J'ai le mot anglais qui me... confectionné. Voilà, pardon. En gros, du prêt-à-porter. Vous savez peut-être qu'en gros, vers 1850, la confection en France est très, très réduite. On produit surtout de la confection, c'est-à-dire des vêtements faits sur taille fixe, à l'avance. C'est fait plutôt pour les milieux très populaires. C'est, encore une fois, produit autour de Lille, dans les campagnes autour de Lille, et à Paris. En gros, c'est les deux grands centres de production. Par contre, une grande partie de cette production part vers l'Afrique avec toujours cette idée que de toute façon, ils achèteront, même si ce n'est pas vraiment leur taille, ce n'est pas très grave. Je vous lis un petit extrait. 1857, nos vêtements, c'est un fabricant qui parle, nos vêtements confectionnés parviennent jusqu'à des régions où beaucoup de gens croiraient trouver encore des anthropophages. Et de préciser un peu plus loin, ainsi nous exportons aujourd'hui nos vêtements français dans le monde entier. Madras et Bombay nous font fabriquer des habits de laine doublés de soie. Et le long des côtes occidentales de l'Afrique, les sauvages même cherchent nos vêtements. Et une maison de Marseille, j'y reviendrai après, fait des échanges d'habillements confectionnés contre des produits naturels. En gros, le vêtement confectionné va aussi servir de troc contre de l'ivoire, contre du caoutchouc, etc. etc. Donc, un commerce qui se développe et qui marche assez bien pour le coup, parce que ce sont des vêtements beaucoup moins chers que des vêtements faits sur mesure. L'autre production plutôt qui va se développer, c'est une production sur place, à partir des tissus importés. En fait, tous les missionnaires qui vont être l'essentiel de la colonisation au Congo, enfin qui vont être vraiment le bras armé en gros de la colonisation, les missionnaires vont essayer de former les jeunes filles à la couture. Alors, il se trouve globalement qu'au Congo, c'est plutôt les hommes qui pratiquent la couture, donc ça marche globalement pas vraiment. Mais par contre, ça fait quelque chose d'important, c'est que ça amène quantité de machines à coudre, enfin tout un tas de matériel qui vont être récupérés. Et donc, en gros, on forme des jeunes filles, et puis en fait, c'est plutôt des jeunes hommes qui vont monter des ateliers de tailleurs. Et on va avoir une pratique du tailleur qui se développe, des tailleurs extrêmement élégants, avec des noms de gens assez connus, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et en gros, qui vont produire du vêtement à l'occidental et présenté comme tel. Et dans la population brazzavilloise, on appelle ces tailleurs des faillettes. C'est pour vous dire, vous allez comprendre pourquoi c'est très lié au vêtement occidental. C'est en fait un diminutif des galeries Lafayette, puisqu'en fait, en gros, ces tailleurs s'inspiraient des catalogues des galeries Lafayette. En gros, vous alliez chez eux et choisissiez votre modèle sur les catalogues des galeries Lafayette, et à partir de ça, ils vous fabriquaient vos vêtements. Dans cette société, vous le devinez, ce qui est en train de se mettre en place tout doucement, c'est une espèce de mise en ordre de la société par le vêtement. Ça va devenir un peu une obsession à la fin du XIXe siècle pour les colons. En gros, on peut dire qu'il y a vraiment une prise de pouvoir complète de la colonisation, enfin de la République, de la France sur le territoire congolais dans les années 1880. Avant, c'est vraiment des petits comptoirs. À partir de là, on domine vraiment le territoire, on occupe vraiment le territoire. Et on va vouloir que la société soit lisible. Ça va être vraiment une obsession. C'est-à-dire qu'en gros, on a un coup d'œil dans la rue, comme ça, on doit pouvoir identifier qui est qui. Alors, vous allez voir, c'est quand même un peu complexe, mais ça donne quand même ce genre de scène où vous voyez à la fois les hiérarchies sociales et les hiérarchies politiques sont très visibles. Qui on trouve dans cette société qu'on rêve visible? D'abord tous les paysans Et il y avait très peu de villes quand même avant les années 1880, donc les villes sont des villes nouvelles, et plutôt avec des paysans qui arrivent pour s'y installer. Et en gros, dans l'imaginaire des colons, ce sont, en gros, ils vont nus ou quasiment nus. Voilà. Donc ça, ça pose pas de problème, c'est lisible, on les identifie facilement. On verra après que c'est pas du tout vrai, mais en tout cas, dans l'imaginaire, ça fonctionne comme ça. Vous avez aussi quantité de militaires extrêmement présents et d'administration, et les deux se confondent très largement avec cette chose assez très forte qui se met en place pour le Congo, qui est qu'il faut des vêtements spéciaux pour vivre dans un climat comme le Congo. Le Congo est décrit comme un endroit, décrit comme la planète Mars, c'est un espèce de climat invivable. Et donc on va inventer, alors vous avez des centaines de brevets de vêtements spécifiques qui sont déposés. Ça donne le chapeau colonial. Pour information, ce modèle-là s'appelle le modèle Congo en France, donc voilà, avec des choses assez sophistiquées. Hein. À gauche, là, c'est Stanley avec son chapeau, ça c'est la version anglaise, et puis à droite, c'est des brevets français. Et je vous signale juste une chose, c'est, par exemple, c'est le casque colonial, mais il n'est pas posé sur la tête, il est légèrement décollé de la tête, et vous avez toujours une hélice au sommet. Vous savez, cette petite bosse, en fait, c'est un aérateur qui est censé refroidir les esprits dans ces climats extrêmement hostiles. Tout ça pour vous dire qu'on invente tout un tas de vêtements spécifiques pour ces régions-là et particulièrement pour le Congo. Et puis, vous voyez, vous allez avoir des catalogues entiers de fabricants de vêtements dédiés, vous voyez la première page, vêtements et accessoires pour les colonies dédiés à ces régions. L'autre grand groupe humain qu'on va trouver, c'est tous les missionnaires qui vont être extrêmement importants. Et eux vont aussi être très obsédés par les vêtements, et ça depuis presque l'arrivée des missionnaires. Ça donne tout un tas. Alors déjà, vous voyez qu'on utilise les vêtements traditionnels. En haut à gauche, c'est à Brazzaville. Hein. Mais par exemple, Ogouar, qui est l'archevêque pendant 30 ans à Brazzaville, va se faire un gros designer de mode, va créer des vêtements. Des espèces de vêtements suisses revisités. Donc on va inventer toute une série d'uniformes locaux. Et puis on va faire ce que vous voyez en bas. Le vêtement à l'occidental va servir à désigner les couples convertis. Enfin, les convertis en général et particulièrement ce qu'on appelle les ménages chrétiens. Donc vous voyez, encore une fois, il y a l'idée qu'en un coup d'œil, on doit différencier par le vêtement celui qui est du côté des fétiches et celui qui est du côté de la religion. Ça va être très fort chez les catholiques, comme vous le voyez ici, mais ça va être très fort chez les protestants aussi. Et dans tous les cas, on va énormément distribuer de vêtements occidentaux comme récompense. On va, quand les enfants veulent bien aller à l'école, on leur donne des vêtements à l'occidental, etc. etc. Et puis, on va aussi, vous le savez peut-être, les organisations politiques vont s'appuyer, enfin, le pouvoir colonial va s'appuyer sur les organisations politiques locales, souvent en les ridiculisant un peu, mais en même temps en les utilisant. Et donc, par des vêtements, on va désigner les chefs qui sont choisis par l'administration. Et ça donne notamment ces médailles. Je vous le signale tout de suite, c'est des choses qu'on retrouve, par exemple, chez les sapeurs. Le fait de porter ces énormes médailles autour du cou, etc. qui sont vraiment des citations directes de cela. Et puis, dernier point, et très important pour nous, vous allez comprendre pourquoi, on va créer une catégorie, que vous avez déjà dû entendre, les évolués. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. La France va créer ça dans plusieurs pays. Ça va être très, très marqué au Congo, mais on va retrouver ça à Madagascar, enfin, dans d'autres régions du monde colonisées. La catégorie des évolués, je n'ai pas besoin de vous dire quel est l'imaginaire derrière, c'est en gros ceux qui ont fait un pas vers la civilisation. Vous voyez l'idée. Je n'ai pas besoin de mettre à chaque fois des guillemets. Hein. Et ces évolués, ils sont jugés sur deux choses, la maîtrise du français, je vais y revenir tout à l'heure, et la maîtrise des codes, y compris et notamment vestimentaires. Donc, eux vont s'habiller à l'européenne et on va les inviter, vous voyez, à développer des sociabilités à l'européenne, des espèces de clubs où ils vont se retrouver habillés, vous le voyez, en complet veston extrêmement classique. Là, on est dans les années 20. C'est vraiment le vêtement ordinaire. Tout ça, vous le devinez, c'est un espèce de substrat extrêmement important pour le développement des pratiques que je vais évoquer maintenant. Autre chose qui va être très important, c'est tout l'imaginaire. Alors oui, j'avais mis cette image-là en forme de transition. Ça, c'est des images d'amateurs. C'est juste pour vous dire que très vite, évidemment, il y a de la subversion et du détournement. Vous voyez, là, ce n'était pas prévu comme ça exactement. mais j'y reviendrai. L'autre chose qui va être très importante, c'est toutes les images qui vont circuler. Je vais essayer d'aller un peu vite. Les images vont être très importantes puisque dès le début, les missionnaires vont les utiliser énormément pour convertir les populations. On va utiliser, alors c'est vrai dès le 16e, mais je rabote, je vais directement au 20e. Là, c'est la collection Bernadette. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Pour ceux qui font du graphisme, il y a un petit bouquin qui est sorti sur cette histoire-là, assez génial. C'était une méthode d'enseignement produite dans les Vosges qui était censée être, vous voyez, extrêmement simplifiée, donc accessible, y compris aux sauvages, et qui mettait en scène à la fois le catéchisme classique, mais aussi des situations en pays sauvage. Donc on montre des fétiches qui brûlent, etc. etc. Et qui vont faire qu'en gros, l'image devient extrêmement importante. Elle est d'autant plus importante, l'image, dans cette histoire, qu'à partir du début du 19e siècle, on a tout un tas d'albums de costumes, vous avez déjà dû croiser ça, où on vous montre, c'est une espèce d'ethnographie balbutiante, on vous montre les vêtements de tous les gens du monde entier, hein, c'est une espèce de l'histoire générale des voyages, ça s'appelle, avec un espèce de panorama comme ça. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez, c'est créé à partir de documents ou à partir de récits, en fait, donc à partir de textes, on fait des images et ça donne ce genre d'images, vous voyez, qui sont relativement de fantaisie, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais il y a cette idée qui va se construire, en gros, de cours avec des rois habillés de façon un peu délirante, qui d'ailleurs, au passage, vous voyez, peuvent même être blancs, ce qui n'était pas du tout le cas du roi du Luongo à droite, mais avec des plumes, enfin, vous voyez, on est quelque part entre l'Indien, on est un peu, on ne sait pas trop où. Et puis, tout un tas d'images aussi qui vont montrer le peuple nu, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, vous l'indiquez. Dans cette bataille d'images, on va dire, vont se développer aussi tout un tas d'images qui se moquent, ça me paraît très important, des Congolais qui veulent s'habiller à l'européenne et qui, évidemment, sont ridicules. Donc vous avez, je dis évidemment, dans l'esprit de l'époque, hein, que ce soit bien clair, donc vous avez des tonnes d'images, en fait c'est très facile d'en trouver, qui montrent ces rois, et je ne sais pas si vous voyez les légendes, mais ces rois clés, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est péjoratif, et en général ils sont toujours décrits soit comme des chefs d'opérette, comme des chefs de pacotille, enfin il y a toute cette idée, en gros, d'espèces de faux chefs, habillés avec les défroques des souverains d'Europe. Vous voyez l'idée ? Et en gros, quelle est l'idée derrière ? Mais c'est très, très présent. Des rois qui imitent comme des enfants ou comme des singes, c'est très courant dans les textes hein, d'utiliser ces termes-là, qui imitent le vêtement occidental, mais sans comprendre les codes. C'est en gros qui n'ont pas compris. Et du coup, vous voyez qu'ils peuvent mettre une veste et un chapeau de forme, mais rester les jambes nues. Enfin, voilà. Donc, en gros, qui imite de façon très maladroite et donc ridicule le vêtement à l'occidental. Donc, quantité d'images, là, c'est des publicités ordinaires, des chromos qu'on trouve un peu partout. Et puis, on a ce genre d'images, alors déjà plus ambiguë, avec une dimension assez homophobe très tôt. Là, on est vers 1900. Mais voilà, ça sous-entend que ils sont très raffinés comme des femmes. Je ne sais pas si vous voyez en bas, là, c'est donc à l'occasion de l'exposition de 1900. Dites à votre maîtresse que c'est le jeune homme qu'elle a rencontré au palais du costume. Et puis, à l'intérieur, c'est expliqué que c'est un Congolais qui s'est perdu, en gros, à Paris au moment de l'exposition de 1900. Dans ces images, oui, on a ça. Et c'est juste, je vous ai mis ça pour vous signaler que même dans les revues de mode extrêmement élégantes de l'époque, vous avez des reportages qui sont censés faire rire sur Congolais, notamment s'habillant mal avec des vêtements européens. L'autre chose qui va faire qu'il y a énormément d'images et qu'en fait c'est très facile de trouver plein d'images sur le sujet, c'est que les missionnaires vont eux-mêmes produire des tonnes d'images avec quelle idée, en gros, de vendre leur œuvre civilisatrice. Et c'est le cas pour pour l'abbé Augouard à Brazzaville, qui va même financer tout un tas de constructions, d'écoles, etc., en vendant des cartes postales en France, son frère est à Poitiers. Et donc, on a comme ça des carnets, des tonnes de photographies qui montrent l'œuvre civilisatrice de la France. Et puis, quantité d'images qui sont de ce goût-là, qui sont censées, vous le voyez, montrer Encore une fois, des rois de pacotille, je vais vous en montrer quelques-unes encore. Ou alors, soit voyez des chefs locaux, on joue à fond sur le pittoresque, soit des sorciers, bref, des mises en scène qui vont souligner le côté, en même temps complètement décadent de ces pouvoirs politiques locaux. Il se trouve quand même, ou alors voilà, ce genre de choses où on se moque comme ça, c'est, vous voyez, la légende de la carte postale, c'est Brazzaville, un élégant, point barre, et on vend ça aux colons qui vont les envoyer en France. Un retour, oui, je vous ai mis ça, je vais très vite aussi, c'est pour vous signaler qu'il y a beaucoup de photoclubs, on s'ennuie beaucoup, beaucoup dans les colonies quand même globalement, et donc vous avez tout un tas de clubs de plein de choses, et vous avez énormément de photoclubs qui vont apparaître pour les colons, et donc on a encore une fois énormément de photos qui sont produites. L'autre chose, et ça donne ce genre de vue finalement assez intéressante, hein, de choses qu'on aurait du mal à documenter sans cela, ça c'est les, j'y reviendrai, mais c'est les fêtes, là c'est dans un quartier de Brazzaville. L'autre chose qui va être très importante pour nous, enfin pour moi en tout cas dans la recherche, c'est de voir comment les Congolais eux-mêmes se représentent. Vous le devinez que c'est beaucoup moins courant. Même si en fait on va pratiquer la photo du côté congolais dès les années 1890. N'oubliez pas que la photo se diffuse mondialement très très rapidement. Et le premier studio photo s'ouvre au Gabon en 1880. Et en gros en 1890, vous avez déjà plusieurs photos, plusieurs studios photos, pardon, au Congo. Là, c'est un photographe en bas, à gauche, qui vient du Nigeria, mais dans un sens on s'en fiche, et qui s'installe au Congo. Il s'appelle Chanou. Et vous voyez qu'il fait des portraits, là c'est à Boma. Il va faire comme ça tout un tas de portraits d'élégants. Vous voyez comme extrêmement sophistiqué, habillé en blanc de la tête aux pieds. Je ne sais pas si vous voyez la canne, le petit chien, même la complexité d'avoir un petit chien comme ça et de l'entretenir au Congo, etc. Enfin, voilà. Vraiment des dandys, hein, pour dire les choses tout simplement. Et donc, vous avez tout un tas de photographes qui vont se faire comme ça, les portraitistes de la haute société locale, de la petite haute société locale, petite en nombre, et qui vont donner, fabriquer cette image-là. Dans le même temps, vous allez avoir un art beaucoup plus populaire, mais qui va figurer aussi les colons, qui va s'appuyer sur le vêtement. C'est toute la sculpture de ce qu'on appelle les colonnes. C'est ces sculptures d'Européens. Et puis, par chance, on a, je ne sais pas pourquoi, mais plusieurs missions qui ont relevé des dessins d'indigènes, je mets les guillemets. Et vous voyez à chaque fois où la place, soit des systèmes de transport, soit du vêtement, est extrêmement important. Ça, c'est des figurations des colons par les Congolais. Alors, dans tout ça, vous le devinez, il y a une espèce de bataille d'image, en quelque sorte, qui va se construire et qui va être aussi une bataille de mémoire, d'archives. Et c'est pas pour rien si aujourd'hui encore, quantité de sapeurs ont dans leurs archives familiales des photos qui remontent à plus d'un siècle. D'accord ? Il y a une vraie culture de l'archivage, et notamment photographique. Là, c'est les photos d'Hector Mediavilla, où vous voyez... Voilà, encore une fois, des vraies logiques de collection d'images, d'albums. C'est à la fois de famille, mais vous voyez, c'est pas tant de famille que ça. C'est vraiment des défilés de sapeurs, des élégants dans les rues, etc. Je vous l'ai dit, c'est une affaire d'image, mais c'est aussi une affaire de texte. En gros, je vous l'ai dit, pour être évolué, il faut bien s'habiller, mais il faut aussi parler... bien le français, puisqu'en fait, quand vous êtes un évolué, vous l'avez compris, vous allez travailler pour l'administration française. Vous allez être traducteur ou, comment dire, clerc, faire de la paperasse. Et donc, il va y avoir une focalisation sur la langue extrêmement, extrêmement importante. Je démarre en vous lisant juste un rapport de police de 1930. Et vous allez voir comment on fait le lien déjà tout de suite entre la langue et le vêtement. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les théoriciens qui ont travaillé sur le vêtement ont très souvent associé l'analyse du vêtement à l'analyse de la langue. Ont pris de la linguistique et l'ont transposé au vêtement. Vous allez voir que c'est sur le terrain, c'est très très pratique. Cette sorte d'élite à laquelle je fais allusion plus haut et qui est nombreuse vit très largement à Brazzaville, imitant d'aussi près qu'elle peut nos manières, s'habillant richement sinon avec élégance. Sa façon de s'exprimer est plein de recherches et de dictionnaires fournis à nos écrivains dans le style des nombreuses lettres qu'ils échangent entre eux. Alors, c'est mal écrit, mais vous comprenez le sens. Et en gros, ils cherchent les termes les plus rares, sinon les mieux appropriés à ce qu'ils veulent dire. Et vous avez, c'est un rapport extrêmement long, qui se scandalise en gros de cette recherche d'une langue extrêmement sophistiquée, extrêmement raffinée, et qui s'en étonne et qui en même temps y voit quelque chose déjà de problématique. Ce qu'on voit aussi à l'époque, c'est que, je vous ai mis cette image, j'aurais pu en mettre d'autres, dans les accessoires de mode, la question des stylos, de la montre, en gros des objets de pouvoir et des objets administratifs vont être extrêmement importants. Vous avez tout un tas de textes des colons à l'époque qui s'étonnent que tous ces hommes portent des montres qui ne marchent pas. Et donc, vous avez des textes sur le fait qu'en gros, ils n'ont pas compris en gros ce que c'était. C'est beaucoup plus clair quand on voit les courriers des sapeurs, puisqu'en fait, on en a de l'époque. C'est clairement, on prend un signe et on le vide de son sens. J'y reviendrai. Sur ces jeux avec le langage, et pour vous dire à quel point c'est important, on va avoir tout un tas d'inventions langagières. Et avant que je passe à l'image d'après, dès 1920, il y a des enquêtes de police pour comprendre ce que font ces jeunes gens très bien habillés qui parlent très bien. C'est pour vous dire que ça passe pas simplement et ça inquiète très très vite. Il y a une première association qui va inquiéter. Puisque je vous l'ai dit, on encourage les évolués à ouvrir des associations, des clubs pour créer une sorte de sociabilité commune. Et la première association qui est créée s'appelle la Société de l'Étoile des Savoyards de Brazza. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils déposent leur statut, la préfecture de police accepte, et puis quand même déclenche toute une enquête qui va durer 5 ou 6 ans. Donc, vous avez des cartons entiers pour essayer de comprendre ce que c'est que ce truc et pourquoi. Et notamment, le nom pose problème. En gros, la question, c'est est-ce qu'on se fout de notre gueule ou pas ? C'est ça, le fond de la question. Pourquoi ? Société, bon, passons. L'Étoile, ça ne vous parle pas, mais l'Étoile de Brazza, c'était le grand journal ultra-colonialiste, ultra-raciste de l'époque. Vous voyez, l'Étoile de Brazza. Et puis, il y avait un autre problème. L'Étoile des Savoyards de Brazza, ça ne vous parle peut-être pas, mais à l'époque, ça parlait. Savorgnan de Brazza, c'est le nom de l'explorateur qui a découvert le Congo et qui a fondé, la ville de Brazzaville. Donc, vous voyez, c'est pas Savoyard de Brazza, c'est Savoyard de Brazza. Bon, donc déjà, il y a un truc bizarre. Et en plus, Savoyard, c'est quoi à l'époque ? Alors là, pareil, ça ne nous parle plus beaucoup. Un Savoyard à Paris à l'époque, c'est les ramoneurs. C'est-à-dire, en gros, ceux qui ont le visage noir. D'accord ? Je vous ai mis une photo de Savoyard à l'époque. Donc, vous avez des tonnes de rapports de police pour dire, mais qu'est-ce que c'est que cette association ? C'est une sorte de grosse plaisanterie, qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Ils ferment l'association, c'est pour vous dire que ça pose tout de suite problème, et ils la ferment assez vite. Et vous verrez qu'elle renaît sous d'autres termes étranges. En tout cas, il y a ce jeu avec la langue qui va être extrêmement fort, je reviendrai à ça après. Et c'est une pratique qui va durer sur tout le XXe siècle. Je vais accélérer pour ne pas prendre trop de temps. C'est très frappant puisqu'en gros, à partir de ces enquêtes-là, on va saisir les courriers qu'échangent les Congolais entre eux et puis qu'échangent les Congolais restés à Brazzaville avec les premiers Congolais qui partent pour Paris. Donc, on a leur correspondance, enfin une partie de leur correspondance. Et de fait, ça inquiète beaucoup la préfecture de police de Brazzaville puisqu'on mélange constamment, dans une langue extrêmement sophistiquée, les questions de politique et les questions de vêtements. Et c'est assez frappant. C'est en permanence mêlé. Et de fait, on va continuer à jouer avec les mots extrêmement fort. Je vous donne quelques exemples. Je vais vous donner des exemples plus contemporains, peut-être. Par exemple, les sapeurs, depuis les années 1970, disent qu'ils ont le culte du Médine. Alors, vous le devinez, ça résume avec la Médina, enfin Médine, la deuxième ville sainte. Et en même temps, c'est le Médine Italie, Médine France, etc. Autre exemple de jeu de mots, de création langagière. Pendant très longtemps, vous n'êtes pas la génération qui a connu ça, mais on pouvait bloquer les compteurs électriques à l'entrée des appartements avec un trombone pour éviter que ça tourne. Donc, les sapeurs pratiquaient ça assez souvent. Ils appelaient ça le Raymond Barre. Raymond Barre étant un des premiers ministres qui a appliqué une politique d'austérité extrêmement forte. Quelle est l'idée derrière ça ? Vous le voyez, c'est de se créer un langage à soi, une sorte d'argot qui fédère le groupe, évidemment, et qui en même temps joue avec le français. Un des sapeurs que j'avais interrogé disait « j'exaspère le français », qui est quand même pas mal, et le double sens, vous le devinez, est très net. Je vous donne quelques noms de sapeurs aussi, puisqu'ils vont jouer avec des noms, leurs propres noms. Vous en avez un qui s'appelle « Beauté numérique ». Un autre qui s'appelle le docteur, et évidemment vous allez lui demander pourquoi, et il vous dit non, je ne suis pas toubib, je soigne les apparences. Un autre qui s'appelle le sociologue, ça c'est pour nous. Un autre qui s'appelle le colonel urbain, et urbain, vous voyez les deux voire trois sens que vous pouvez lui donner. Bref, tout un jeu sur la langue qui va être extrêmement important. Et puis tout un tas de chansons, je ne vais pas vous les passer parce qu'on n'a pas le temps. Vous irez voir ça sur YouTube, vous en trouverez tant que vous voulez. Mais on va payer les sapeurs vont payer des chanteurs qui vont créer des chansons. Et les chansons, c'est en gros à base de listes de marques de vêtements, d'accord, qu'on va enchaîner. Le nom des sapeurs et puis le nom des entreprises qui, voilà, donc vous avez des ambulances, des taxis, qui se baladent au milieu de ces chansons. Et je vous donne juste quelques refrains, ça vous donnera à peu près les choses. Il y a une chanson assez connue dont le refrain est Weston au pied, cravate au cou. Toute l'ambiguïté de cravate au cou. Et Weston au pied, Weston, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grande marque française de chaussures de luxe. C'est entre 600 et 1000 euros à peu près la paire, hein, en demi-mesure. Et en tout cas, on va lister comme ça des marques et ça va être extrêmement important. Je vous donne juste la fin de la chanson quand même. Nous remercions Dieu qui nous a créés à son image. Voilà, vous voyez l'ambiguïté et la dimension subversive possible. Autre aspect qui me paraît important, c'est la manière dont ils vont occuper l'espace. Pour le dire autrement, et là, je vais arrêter de regarder mes notes, comme ça, je vais aller plus vite. Les sapeurs, comme beaucoup de groupes marginaux, de groupes contestataires, on va dire ça comme ça, investissent très peu dans la vie domestique et investissent beaucoup dans l'espace public. Ça va être très fort dès les débuts, puisque dans les années 1890, à Brazzaville, vous avez au centre de la ville un quartier européen, de chaque côté un quartier indigène, Bakongo et Potopoto. Et le soir, il y a un couvre-feu, les Congolais n'ont pas le droit d'aller dans le quartier européen. C'est le cas dans pas mal de villes à l'époque. Mais donc, vous voyez, la question de l'occupation de l'espace public est extrêmement importante. Et on va demander aussi, avec tout un système de laissez-passer, aux gens de se déplacer pour aller faire quelque chose. On a besoin de savoir ce qu'ils vont faire. Les sapeurs vont développer tout un tas de pratiques. Là, vous en voyez en tenue de ville. Je mets les guillemets, mais vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Vont développer tout un tas de pratiques, de démarches, ce qu'ils appellent des démarches, mais des pratiques de flânerie, si vous voulez. En gros, des déplacements improductifs. En gros, on perd son temps, on traîne la patte. Et qui sont des pratiques qui vont durer extrêmement longtemps. Et puis, ce qui est très frappant aussi, c'est qu'ils vont développer des pratiques d'occupation de l'espace public par la danse. Et là, il y a un truc vraiment très troublant, en tout cas pour moi, c'est qu'en gros, presque avec un siècle d'écart, vous avez exactement les mêmes gestes. Là, je ne vous ai donné qu'une photo, mais j'en ai... Voilà. Et qui sont en fait des gestes basés, vous le savez peut-être chez les sapeurs, mais basés sur la manière de montrer ses vêtements. C'est-à-dire que vous levez le genou pour montrer que vous avez des chaussettes de qualité, vous mettez la main dans le dos pour montrer que vous avez une fente importante sur votre costard, etc. etc. Donc tout un tas de pratiques liées aux vêtements pour démontrer son élégance et la qualité de ses vêtements qui vont se mettre en place et qui vont très facilement se transposer à Paris à partir des années 1970. Ça c'est donc Bachelor pratiquant la danse. C'est une danse, je vous parlais des jeux de mots tout à l'heure, ça s'appelle la danse des griffes. Et vous devinez le double sens, ça joue à la fois sur l'imaginaire exotique du Parisien, on va dire, et puis sur les griffes pour parler des marques. Donc une occupation de l'espace public, je passe sur ça, qui va être extrêmement importante. L'autre aspect qui me paraît tout à fait... Non, j'ajoute une chose quand même. Il y a aussi un jeu très fort qui se met en place à partir des années 1970 sur ce jeu des espaces entre Paris et Brazzaville. Vous avez des morceaux de Paris à Brazzaville et des morceaux de Brazzaville à Paris. Ça joue vraiment dans les deux sens. Pour vous donner juste une idée, il y a plein de soirées de sapeurs à Brazzaville où le ticket d'entrée est un ticket de métro parisien. D'accord ? Vous imaginez, denrées plutôt rares quand même. Voilà. Donc on joue vraiment sur des espèces de connexions entre ces deux espaces extrêmement fortes. L'autre question qui me paraît extrêmement importante, c'est toute la question sociale. Parce que ce qui m'avait frappé, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand je vous ai projeté cette image, là vous avez des boys, des domestiques. A priori, les domestiques n'ont pas vraiment de raison d'être habillés comme ça. Et c'est dit dans toute la littérature de l'époque coloniale, on se moque en gros des boys qui s'habillent, qui imitent leur patron, voire qui s'habillent mieux que leurs employeurs. Au début, ça fait rire, et puis assez rapidement, ça inquiète, ça énerve même. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Et c'est dit, encore une fois, très fortement dans tous les textes de l'époque. Je vous montre d'autres exemples. Quand on s'habille en chaussures de daim blanches, avec un pantalon de golf, etc., qu'est-ce que ça dit physiquement ? Et ça, à l'époque, l'Européen le décode très, très nettement. Ça dit « je ne travaille pas de mon corps ». D'accord, je ne travaille pas de mes mains. Vous ne portez pas un haut de forme, enfin, on ne peut pas travailler avec un haut de forme, on ne peut pas travailler avec des gants, on ne peut pas travailler avec une canne, on ne peut pas travailler avec des chaussures en cuir blanche, etc., etc. Donc, il y a une espèce de contradiction qui va se mettre en place entre, en gros, des gens qui sont désignés comme de la pure main d'œuvre et qui vont s'habiller pour refuser ce statut de main d'œuvre. C'est très clair, je vous raconte juste une anecdote à ce sujet, il y a un colon, un des rares colons qui a écrit sur le Congo, qui a raconté ses déconvenues, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un récit héroïque. Et il explique qu'il part, il abandonne sa concession quelques jours, et il revient plus tôt que prévu, et il se rend compte que tous les soirs, tous ses boys et tous ses employés montent des petites pièces de théâtre, où ils sont tous habillés à l'européenne, et où ils parodient la vie des patrons, dans la concession. Il explique qu'on joue à ces renversements sociaux extrêmement forts. Et c'est quelque chose dès les années 30 qui va poser problème. Il y a plein de rapports de police sur des insubordinations sur les chantiers. Vous connaissez cette image, vous connaissez tous cette image de Tintin. Je vous la lis. Allez-vous vous mettre à l'ouvrage, oui ou non ? Mais, moi va salir. Je n'ai pas parlé tout à l'heure du petit nègre parce que je n'avais pas le temps, mais évidemment, le Congolais s'habille mal. Et il parle mal, il comprend pas les codes du vêtement, il comprend pas les codes de la langue. Mais évidemment, vous voyez, si on renverse un peu le regard d'Hergé, qui est à l'époque au parti Rexy, c'est-à-dire au parti néo-nazi belge, on voit que ça ressemble à un acte de résistance et ça l'est. On va enquêter très largement sur toutes ces résistances sur les chantiers, j'insiste, et ces gens qui ne veulent pas travailler en arguant de leurs vêtements. Et pour avancer, quand même, oui. Sur la dimension coloniale, j'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des signes. Et pour finir, parce que j'ai peur d'avoir été trop long, j'ai eu assez peur au début Non, pardon, je vous cite quand même un dernier truc. Pour vous dire que ce sont des pratiques qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, dans la langue des sapeurs installés à Paris, tout ce jeu avec le refus d'être le bon travailleur immigré, c'est-à-dire celui qui va travailler à la chaîne, qui va travailler à l'usine, qui va faire du ménage, etc. Je vous donne juste deux, trois exemples. Une des phrases de Joe Ballard, qui est le grand sapeur des années 80, c'était de dire « Mon corps ne supporte pas le jean, c'est pour les mécaniciens. » Ce qui n'est pas très sympathique, hein, par ailleurs, mais en tout cas, ça dit bien les choses. Et puis, vous avez un autre, aujourd'hui, une version radicale encore, vous avez un sapeur qui s'appelle « chômeur de luxe », d'accord ? Qui est quand même, pour un immigré, la subversion ultime. Je pense que vous serez d'accord. Donc, c'est pour vous dire que ces questionnements sur l'argent, la façon de dépenser son argent dans les vêtements, je ne l'ai peut-être pas assez dit, ils dépensent aujourd'hui encore jusqu'à 75% de leurs revenus dans les vêtements. C'est une façon d'être un mauvais immigré. Et ce sont des mauvais immigrés au regard de la société française. D'accord ? Le bon immigré, c'est celui qui achète une maison, qui s'intègre, comme on dit, donc il achète une maison, une voiture, etc. Pas qui suit la mode, enfin qui s'occupe de mode. Et ce sont des mauvais immigrés pour la société congolaise, parce qu'ils n'envoient pas d'argent au pays. D'accord ? Donc c'est pour vous dire que ces renversements de hiérarchie sociale, ça va jusqu'à aujourd'hui et jusqu'en migration. Et donc, dernier point, vous l'avez deviné, c'est toute la dimension politique, et je conclurai avec ça, qui va être extrêmement importante. Dès les années 20, on arrête de rigoler, on arrête de se moquer de ces nègres endimanchés, de ces sauvages qui imitent les Européens, etc. D'ailleurs, c'est assez net, dès 1925, vous avez quasiment plus de photos, on trouve quasiment plus d'images. Parce que d'un seul coup, c'est associé à la subversion, et en gros, au premier mouvement indépendantiste. Ça donne quoi ? En Angola, les Portugais, dès 1910, vont interdire les carnavals. Et ça a donné ce genre de choses. Je n'ai pas besoin de vous dire la charge subversive qu'il pouvait y avoir. Et puis, on va très vite mener des enquêtes. Il va y avoir quantité de procès, donc plein d'archives, encore une fois. Je vous lis un extrait. Ça, c'est une pièce qui est versée dans un procès et qui est versée au procès de Matsua, qui est un des leaders d'indépendantistes, qui a été tué juste après. J'ai été frappé de l'attitude prise par une certaine catégorie d'indigènes à l'occasion de leur rapport immédiat avec les Européens. Aucune déférence extérieure envers les agents de l'autorité et sur les chantiers, un espèce de ricanement perpétuel des ouvriers et travailleurs envers leurs employeurs et leurs chefs de chantier. Je continue. Leurs agissements en France et ici remplissaient d'orgueil cette partie de la population qui forme l'élite, celle qui s'habille, qui écrit et donc croit penser. Son orgueil est incommensurable car cette élite est étoffée au propre et au figuré. C'est quand même une hyper belle formule. Mais j'insiste, ça devient un problème. Et vous avez, dès les années 30, tout un tas de ces proto-sapeurs, on va appeler ça comme ça, qui sont arrêtés et jetés en prison. Pour conclure, je vous lis juste un petit... une invitation distribuée par les sapeurs dans les années 60, fin des années 50 même, au Congo. C'est une invitation pour un club, donc un club de sapeurs, à Brazzaville. J.M. Weston exigé. D'accord, donc, si vous voulez rentrer, il fallait avoir des Weston au pied. Et c'est le club des Gallo-Romains. La Gaule a été une province romaine pendant plus de 400 ans. Les Gaulois ont imité les Romains. Ils se sont habitués et ont vécu comme eux. Ils ont appris leur langue, le latin, peu à peu. Et peu à peu, on a pu distinguer les Gaulois des Romains. Tous les habitants de la Gaule ont été appelés des Gallo-Romains. J'ai pas besoin de vous dire le sous-texte. Ça dit à peu près le programme des sapeurs, cette espèce de subversion en épousant à fond les valeurs du colon. Et je vous rappelle juste que dans le même temps, vous avez d'autres mouvements anticoloniaux, et je conclue pour de vrai avec ça. En Inde, par exemple, le mouvement Swadeshi, qui a été le refus du vêtement occidental, Gandhi, hein, vous connaissez, donc le fait qu'on fabrique soi-même son coton, qu'on le tisse, qu'on le et qu'on refuse le vêtement occidental. Là, au même moment, c'est ce qui est assez troublant, ce qui trouble les autorités, c'est que vous avez le même effet avec le comportement exactement inverse, un espèce de surinvestissement dans la mode. Voilà, je m'arrête là, puis on parlera après, on aura des questions. Je vous remercie. J'ai été très très long, pardon.
Ok, alors on va passer à la phase questions. Si vous avez des questions, on vous donne la parole. Oui.
J'ai juste une question sur l'influence sur les bataillons d'Afrique pendant la guerre 14-18. Est-ce qu'il y a eu des incidences?
Alors, je dirais les choses dans l'autre sens, mais donc vous me direz si je réponds. Matsua, là, donc, que j'évoquais, qui a été un des leaders des premiers mouvements indépendantistes, enfin nationalistes au Congo, avait fait la Première Guerre mondiale et refusé, en tout cas c'est à la légende, on ne sait pas trop si c'est vrai, mais refusé de quitter l'uniforme militaire français. Donc il y a cette idée quand même pour beaucoup de revendiquer un statut après-guerre, après la Première Guerre mondiale, de revendiquer une reconnaissance et un statut. Voilà.
Du coup, je me demandais, est-ce que c'est un... Ça marche. Est-ce que c'est un mouvement qui est vraiment resté dans le Congo ou est-ce que soit à l'époque par la circulation des images, soit aujourd'hui avec les flux de migration, ça s'est étendu à d'autres anciennes colonies
Alors, ce qui est assez frappant, c'est que donc aujourd'hui c'est toujours très très fort au Congo. J'ai beaucoup parlé de Brazzaville parce que je suis surtout travaillé sur les archives, mais qui joue à Kinshasa, la capitale de la RDC, est à 4 km de Brazzaville. Hein, donc en fait, c'est tout ce que j'ai dit est valable pour Kinshasa aussi. Donc dans la région, c'est assez fort. C'est aussi un mouvement qui a été qui a eu des sortes d'écho ou en parallèle au Nigeria, au Côte d'Ivoire. Voilà, enfin, pensez à tout le mouvement coupé décalé aujourd'hui qui revendique quand même clairement l'affiliation. Et après, non, curieusement, c'est quand même un mouvement qui est très centré en gros sur Paris et Bruxelles. Bruxelles, puisque la Belgique possède, enfin, dominait le Congo, la RDC. Mais ce n'est pas des mouvements qui ont pris ailleurs. Donc c'est vraiment aussi, je pense, lié aux pays colonisateurs, quoi.
Oui, donc resituer effectivement votre...
Ah, il fonctionne ? Oui, c'est bon. Vous avez resitué effectivement votre travail de recherche entre donc, la France et la Belgique, hein, mais je m'interroge quand même sur le passage de cette mode aux États-Unis et les passages intermédiaires entre les États-Unis et l'Europe, éventuellement la France, avec des mouvements comme les Azou dans les années 40, et les images qui me reviennent encore de Michael Jackson dans les années 80. Quoi. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous interroger aussi sur cet autre territoire qui n'est quand même pas un petit territoire?
Non. Alors, quand on voit ça, on est effectivement tout le temps tenté de faire des tout un tas de connexions visuelles, de pratiques, etc. Enfin, si on pense aux Zooters, par exemple, dans les années 40, qui étaient donc les immigrés de l'intérieur, en gros, c'est-à-dire des Afro-Américains et puis des Mexicains, etc., à Los Angeles, qui s'habillaient, qui étaient en gros des quartiers très pauvres, et qui s'habillaient pour montrer qu'ils emmerdaient tout le monde. Hein, je fais court, mais... Et il y a eu quand même des chasses aux Zooters, on les a obligés à se déshabiller, etc. On dit qu'il y a en tout cas, que la subversion par le vêtement est une pratique assez ordinaire dans l'espace public, venant de groupes dominés, pour dire les choses simplement. Après, les connexions réelles me paraissent pas si nettes. Avec les Azou, sans doute, c'est-à-dire qu'il y a une observation. Il y a quand même un groupe de sapeurs qui s'appelle les existentialistes dans les années 50. Donc il y a des connexions. Il y a un lien avec la France assez attentif. Avec les États-Unis, pas tant que ça, d'autant que tous les Congolais, on va dire un peu sapeurs, partis aux États-Unis, en fait, c'est plutôt eux qui se fondent dans les cultures vestimentaires afro-américaines que l'inverse. Enfin, voilà. Avec, vous le savez, toutes les questions d'assimilation des immigrés fraîchement arrivés et des Afro-Américains de longue date, avec toute la complexité de la chose. Et a priori, de ce que je sais, mais peut-être que je dis des bêtises, il n'y a pas vraiment il y a eu énormément d'esclaves emmenés du Congo aux États-Unis. Il y a des restes, et Justin Gondoulou d'ailleurs travaille sur ça, des restes dans la langue, c'est-à-dire qu'il y a encore des familles où on récite des comptines en lingala, etc., sans en comprendre le sens, mais qu'on a transmis comme ça. Mais sur le plan vestimentaire, j'ai jamais rien vu de tel. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une absorption locale, donc dans la culture afro-américaine, que l'inverse. Mais voilà, c'est dur à documenter. Les connexions avec les États-Unis sont assez tardives quand même, entre le Congo et les États-Unis, c'est pas évident. Mais quand même, les Congolais regardent un peu partout. Je vous dis ça parce qu'en gros, dès les années 1930, les Congolais consomment, par exemple, énormément de vêtements japonais. Enfin, donc, vous voyez, c'est vraiment des connexions très larges. Mais c'est sans doute on peut faire des comparaisons, c'est sûr. Après, les connexions sont moins évidentes. Voilà. Et on n'a pas les archives aussi. Ouais.
Autre question ? Oui ?
Le sapeur, il est essentiellement masculin ?
Il est très, très essentiellement masculin, même.
Il n'y a pas de sapeur ?
Non, il y en a à peine. Je ne sais pas, moi, depuis le temps, ça va très longtemps, mais quand même. Je ne sais pas, j'ai dû en croiser 5, quoi. Voilà. Non, c'est très masculin. Je pense que ça s'explique par plusieurs choses. C'est qu'en fait, dès le début, ce qui obsède... le colon, enfin en gros le corps qui est politique dans la société, c'est le corps masculin. Et encore plus sur le vêtement. Donc il faut marquer le corps masculin converti au colonisateur, on va dire ça comme ça. Et puis l'autre chose, c'est dit dans vraiment tous les textes, c'est qu'une femme qui s'habille bien, c'est normal. Dans l'esprit du colon, elle est coquette. Voilà. Et on dit c'est normal, toutes les femmes du monde sont coquettes, blablabla. Un homme coquet, ça pose plein de problèmes et plein de questions et ça inquiète et ça voilà. Donc je pense qu'il y a aussi que les sapeurs ont d'autant plus surjoué ça. Et c'est assez frappant de voir, mais c'est vrai dans pas mal de pays colonisés, que les hommes ont investi le vêtement à l'occidental, alors que les femmes ont beaucoup plus bricolé des espèces de mix entre du local, et de l'importé, quoi.
Merci monsieur Manuel Charpie. On va passer donc à la suite avec Élodie Juge, Et la question sur les vide dressings.
Bonjour à tous. Donc voilà, je vais présenter mon travail un peu différemment parce que moi je suis je suis encore étudiante et donc je suis en thèse. Donc c'est une recherche qui commence hein, tout juste je vais un peu présenter puisque ici un public encore étudiant, que voilà comment on construit un travail doctoral et comment en tout cas j'ai construit ce travail de recherche. Alors la question de recherche qui bon, ici c'est un peu un storytelling hein, puisque en fait donc je vais soutenir ma thèse en novembre donc j'ai commencé avant avec un master recherche et même le master pro, mais la question de recherche elle arrive un petit peu plus à la fin de la thèse, mais bon, en tout cas, je vous la présente tout de suite. Donc, comment se construit le consommateur marchand, une approche par les dispositifs sociotechniques dans le contexte de la consommation collaborative. Donc, en fait, je vais vous expliquer un petit peu. Bon, alors, présentation personnelle, on l'a faite. Voilà, qu'une reprise d'études en 2013. Alors, la question de recherche, elle vient pas vraiment par hasard. On vous a dit, j'ai été commerçante longtemps. Et en fait, je me suis intéressée à la consommation collaborative. Forcément, moi, j'étais commerçante dans le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, les détaillants ont été... c'est un peu comme les vidéoclubs, ont disparu de la surface du retail. Et donc, je me suis dit, cette consommation collaborative, donc consommation entre particuliers, comment elle va bouleverser le commerce actuel. Et puis, donc, j'ai commencé à m'intéresser sur cette consommation collaborative, donc consommation entre particuliers. Et puis, quand on fait des recherches sur Google, vous tapez consommation collaborative, alors assez vite, vous trouvez nouvelle industrie, confiance, partage, économie, peer-to-peer, hein, de pair à pair, d'individu à individu, mobilité, partage, troc de fringues. Oh, ok. Ensuite, sur des sites très institutionnels comme le site du gouvernement, qu'est-ce que la consommation collaborative ? On nous définit donc pour le gouvernement français, dans sa définition la plus large, la consommation collaborative permet à une communauté de particuliers de prêter, louer, donner, partager, échanger, acheter des biens ou des services. Bon, on est encore une fois dans cette idée de partage, de communauté. Avec des chiffres qui s'envolent, 2014, on nous parle de 20 milliards d'euros et puis on nous promet pour 2025 268 milliards d'euros qui devraient être générés par cette économie du partage. Donc, quand même un phénomène qui demande à être étudié, je me pose la question à cette époque et je me dis, il y a quelque chose à planter et à creuser sur cette économie collaborative. Des chiffres d'instituts, de sondages, 95% des Français consomment de façon collaborative. Alors ici, vous faites partie de ces 95% des Français. Consommation collaborative, si je vous dis Uber, Airbnb, si je vous dis, alors qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme collaborative, vous échangez Le Bon Coin, voilà, ok. Donc, vous voyez, 95% des Français consomment de façon collaborative. Une tendance de consommation donc qui se développe. Alors, la consommation collaborative, qu'est-ce que ça va regrouper ? Alors, surtout de la revente d'objets, vous avez parlé du Bon Coin, eBay, etc. Ça peut être des achats directs auprès de producteurs fabricants, d'accord ? Donc, beaucoup, aujourd'hui, on va parler des circuits courts dans l'alimentaire. Vous allez chercher les produits, il y a la ruche qui dit oui, des systèmes qui se mettent en place. L'achat de produits courants d'occasion, l'achat d'un véhicule d'occasion, l'achat de vêtements d'occasion, le covoiturage, bien sûr, Blablacar, du troc de biens et de services pour la perceuse, l'appareil photo, etc. La location ou leasing d'équipements, la location à d'autres personnes de produits d'équipement. On a souvent entendu parler du prêt de la tondeuse par le voisin, etc. Location de véhicules en autopartage, c'est ce qui se développe dans les grandes villes, par exemple Autolille ou sur Paris aussi. Échange d'appartement ou de maison, d'accord ? Et la colocation. Donc, la consommation collaborative est présentée comme une nouvelle économie, une nouvelle façon de mieux consommer, voire même le moyen d'échapper au marché. Alors, B2C, c'est business to consumer, d'accord ? C'est globalement l'économie classique, d'accord ? Donc, consommer, voire même le moyen d'échapper au marché B2C en privilégiant les modes d'accès en C2C, donc de consumer à consumer, c'est-à-dire de particulier à particulier. Et le fait de faire un Paris-Lille avec un Blablacar, bah, c'est plutôt vu comme quelque chose pour échapper au marché traditionnel, par exemple. En ce moment, on en parle beaucoup. Donc, en fait, on a une vision qui est donnée par les médias en particulier et donc qui forme aussi les esprits des particuliers avec une vision assez romantique de la consommation entre particuliers. Alors, dans un premier temps, bah, du coup, je me suis intéressée à des concepts qui portent plutôt sur la sharing economy et sur les résistances. Je me suis dit, cette économie collaborative qui est présentée comme cette nouvelle économie du partage, donc je me suis intéressée à des auteurs qui travaillent beaucoup sur cette économie du partage, donc Bardi, Eckhart, Boltzmann, Gansky, Belk, Herbert, Colin Lachaud. Donc ce sont des auteurs, des universitaires donc, qui travaillent sur ces thématiques. Je me suis intéressée aussi aux résistances, puisque... selon moi, au départ, je me suis dit la consommation collaborative, c'était une façon de faire autrement, de résister au système marchand. Donc, je me suis intéressée, j'ai lu des auteurs comme Dominique Roux, Éric Remy, Cauchois, Cis Cosinette. C'est encore une fois des auteurs qui s'intéressent à des consommations en marge, des résistants. Vous avez peut-être entendu parler des glaneurs, par exemple, à la fin des marchés, qui vont récupérer les fruits, les légumes. Alors, Dominique Roux et Éric Rémy ont beaucoup travaillé sur les glaneurs. Ça peut être Cosinette, c'est sur le festival Burning Man aux États-Unis, où en fait, c'est à un moment donné, on va refuser cette société de consommation. Donc, dans un premier temps, j'ai lu beaucoup sur ces concepts. Et puis, assez rapidement, dans une recherche, faut choisir un terrain de recherche où on va donc constituer ce qu'on appelle nos données, notre corpus de recherche. Donc, j'ai choisi, alors un peu par hasard, le terrain de la recherche au sein de l'économie collaborative. En fait, je suis partie sur le cas de la pratique du vide dressing. Alors, je suis formatrice avant ma vie universitaire, donc j'ai vendu des jeux vidéo pendant longtemps et j'ai aussi fait de la formation auprès de jeunes post-bac. Et puis, j'ai une jeune fille, un jour dans mon cours, qui m'explique qu'elle administre la page Vide Dressing Lille-Roubaix. Alors, moi, je n'ai pas de fille, j'ai un garçon. Et puis, je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est que le Vide Dressing? Puis, elle me dit, ah bah oui, on anime, on a plus de 8000 membres sur notre page Facebook. Ah bon, tu peux nous en parler, etc. Tu peux m'en parler. Et puis, elle m'explique qu'elle vend ses vêtements, qu'elle organise des vide-dressings. OK, bon, je vais commencer à m'intéresser à ça. Puis, elle, avec un accès assez, oui, c'est recyclable, ça va être une façon de recycler les vêtements, de leur donner une seconde vie, etc. Donc, OK, la consommation collaborative de particulier à particulier. Donc, je commence à m'intéresser au vide-dressing. OK, alors, le vide-dressing Lille-Roubaix. Peut-être ici, vous êtes connectés à la page. Donc, aujourd'hui, 8694 membres, enfin aujourd'hui à peu près. Je commence aussi à aller voir du côté des vide dressing en ligne. Mais donc ici, c'est les plateformes via Facebook. Puis, il y a aussi des plateformes qui sont hors réseaux sociaux. Donc, par exemple, avec la plateforme Vinted. Alors, en quelques chiffres, quand même, ça m'interpelle, puisque Vinted, alors, je sais pas si on voit bien, c'est 11 millions de membres, c'est plus de 22 millions d'articles mis en vente. D'accord, j'étais commerçante au niveau de pour avoir 22 millions de références dans un magasin, il faut un grand magasin. C'est 90 articles qui se vendent par seconde, et en 17 secondes, c'est la transaction la plus rapide. D'accord ? Ça m'interpelle, ça, vraiment, je me dis qu'il y a quelque chose de sous-jacent à aller creuser. Le vide dressing, donc 13 janvier 2016, on a aussi des entreprises qui vont chercher à aller sur cette économie collaborative. Et on voit une copie d'écran. Donc, vide dressing ne compte pas se reposer sur ses lauriers. 1 million d'acheteurs et de vendeurs et un chiffre d'affaires transactionnel de 35 millions. Enfin, on sent que ça carbure. Alors, le cheminement de la recherche, c'est un peu technique, mais bon, voilà, c'était l'idée de vous montrer comment j'ai mis en place cette recherche. Alors, j'ai travaillé sur une recherche abductive, c'est-à-dire que, en fait, je suis partie théorie, terrain, théorie, c'est-à-dire qu'on va avoir des allers-retours entre le terrain et la théorie. Donc, je vous ai expliqué, en fait, je suis partie de la consommation collaborative, je suis allée lire des choses sur la consommation collaborative. Ensuite, j'ai commencé mon terrain et puis j'ai dû revenir sur la théorie parce qu'il y avait des choses qui ne collaient pas. J'avais besoin de théorie pour fortifier en fait mes données. Donc c'est ce qu'on appelle un processus abductif. Donc en fait tout au long de la recherche, donc moi c'est plus de 4 ans, c'est ces allers-retours entre théorie et terrain. Et puis un positionnement épistémologique. Alors en recherche on parle de positionnement, et moi j'ai de positionnement épistémologique, et donc j'ai fait le choix du positionnement épistémologique interprétativiste. Je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais en fait, c'est-à-dire que je vais avoir des données, et en fait, on va interpréter les données, et pour être sûr de notre interprétation, en fait, on va trianguler ces données, c'est-à-dire qu'on va croiser les sources de données pour être sûr que nous, en tant que chercheurs, on ne fait pas une surinterprétation des données et qu'en fait, on colle bien à nos résultats. Voilà, donc en fait, une recherche abductive, il faut aussi des choses qui nous parle. Donc moi, c'était important d'aller souvent sur le terrain. J'aime vraiment aller sur le terrain et être au contact des répondantes et des pratiquantes. Alors, comment ça s'est déroulé? En fait, une étude qualitative multiméthode. Alors, en fait, c'est par rapport à mon collègue qui est en histoire. Alors, nous, en sciences de gestion, on fait aussi de l'ethnographie. Donc, des données collectées grâce à de l'ethnographie. Alors, déjà, une étude documentaire. Alors, j'ai mis jusqu'à avril 2018 parce que je continue à collecter des données. Donc, une étude documentaire. Des entretiens longs de pratiquantes. Alors, des entretiens longs, c'est des entretiens avec des pratiquantes qui sont d'une durée de plus d'une heure en général. Et une heure, c'est déjà pas beaucoup. Donc, on fait parler beaucoup les gens. Des observations participantes ou non à des vide dressing. Et des observations en ligne des pratiquantes. Donc l'objectif, par exemple, pour les entretiens longs, c'est le recueil de discours des pratiquantes. Alors on verra après, assidu du vide dressing. Et en fait, je vais avoir une connaissance assez descriptive de la pratique et de comment elles font. Ensuite, des observations. Donc en fait, l'idée, c'est de s'acculturer à la pratique. Avec des observations participantes, c'est-à-dire de m'inscrire moi-même, faire un vide dressing ou en ligne, faire partie de groupes, acheter sur Vinted, vendre sur Vinted. Voilà, donc c'est des immersions aussi dans les communautés virtuelles de pratiquants. Donc, alors mon terrain, il n'y a pas vocation à être généralisé, puisque en fait, moi, en effet, j'ai un terrain qui est très spécifique. Et j'ai des pratiquantes assidues du vide dressing. En fait, j'ai des pratiquantes qui passent plus de 8 heures par semaine dans leur pratique de vide dressing. Voilà. Donc, on va le voir après, je les ai appelées des pratiquantes assidues de vide dressing. Alors, sur le terrain, vous vous souvenez, je suis partie de la consommation collaborative, je suis partie de la sharing economy, l'économie du partage. On va plus acheter, on va louer, la possession, on va faire l'éloge de la non-possession. OK, et sur le terrain, j'étais un peu surprise puisque j'ai eu, c'était vraiment mes vêtements sont à vendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain ? Le terrain révèle des consommatrices qui sont accros au shopping. Alors, pourquoi ? Comment elles expriment et comment... j'interprète, donc ce sont des accros au shopping. Alors, dans leur verbatim, ce qu'on appelle les verbatim, dans ce que les répondantes me confient, durant les entretiens. Alors, j'ai Stéphanie, par exemple, qui dit « elles sont dépensières comme moi ». Et Manon qui me dit « je ne serais peut-être pas physiquement une des sœurs Kardashian, mais en tout cas, pour leur garde-robe, les sœurs Kardashian ». Alors, je suis allée voir sur Internet ce que c'était qu'un dressing des sœurs Kardashian. Alors, ça, c'est le dressing de Khloé Kardashian. Vous connaissez Khloé Kardashian ? Alors, ça ressemble à ça. Et alors, vraiment, pour les répondantes, bon, j'ai mis que quelques... Là, j'ai mis deux verbatim, puis il faut faire vite. Mais en effet, moi, elles, quand je leur demande à qui vous aimeriez ressembler, les sœurs Kardashian, Suzanne Meyer dans Desperate Housewives, c'est leur modèle. Beyoncé, qu'est-ce que j'ai encore donc c'est, elles sont vraiment accro shopping et leurs modèles sont ces stars qui se présentent avec des vêtements et des dressings. Alors, plus loin aussi, dans ce qui est dit et dans ce que je vois sur le terrain, ce sont aussi des femmes qui sont acculturés aux techniques marketing B2C, alors je suis en sciences de gestion, hein, business to consumer. Alors, le marketing, je vous ai mis ici ce qu'on appelle les facettes du retailing mix. Alors, c'est un nom barbare, mais nous, en sciences de gestion, on utilise beaucoup. Alors, le retailing mix, c'est en fait comment ce sont des techniques marchandes et des techniques commerciales. Et en fait, je me suis aperçue donc, le terrain qu'elles étaient forcément acculturées aux techniques commerciales puisqu'elles sont déjà accro au shopping. Elles ont l'habitude de faire les magasins, elles vont dans les centres commerciaux. Donc, en effet, elles voient comment ça se passe dans les magasins. Donc, il y a une acculturation. Mais aussi, elles vont adapter ces techniques pour leur vie de dressing. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'assortiment, alors dans un magasin, il faut un assortiment, on va dire, en général, on dit qu'un magasin doit avoir plusieurs, des gammes, alors que ce soit, je vais vous faire un cours sur l'assortiment, mais bon, largeur, profondeur, les marques. Alors, elles ont assez bien compris, c'est-à-dire que, par exemple, quand elles organisent un vide dressing, il y a les vêtements, mais il y a aussi des accessoires, des coques pour téléphone, de la maroquinerie, des petits bijoux, des choses où, en fait, on va pouvoir créer l'achat d'impulsion. Plutôt que d'acheter, un gilet à 20 euros, on va avoir des petites coques à 5 euros. Donc, ça permet aussi à leurs clientes de pouvoir se lâcher sur des produits différents. Elles vont faire attention au design, au merchandising, à l'animation, comme des professionnels. Alors, par exemple, le merchandising, y a un verbatim, là, de Charlotte, qui nous dit « j'essaye de ranger les pulls, les robes, je fais comme dans un dressing bien rangé et en avant, je mets les pièces tendance. La première pièce sur mon portant, c'est celle qui peut le plus plaire et qui va attirer vers mon stand. » Vous savez, quand vous allez dans les magasins, il y a des têtes de gondole. Ça ressemble un peu à ça. Elle va mettre en avant son produit phare, celui qui va faire venir les clients. En ligne aussi, j'ai remarqué aussi, donc comme j'ai la chance d'avoir commencé mon travail il y a 4 ans, on sent que, alors je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui, mais dans mon travail de recherche, je montre aussi vraiment la montée en compétences. Par exemple, au début, dans les années 2013, la façon de vendre ses vêtements, et on est dans le design photo, c'était des pulls mis comme ça, froissés sur les lits. Alors, on en voit encore. Mais aujourd'hui, on voit que certaines vendeuses vont mettre en scène leurs produits et qu'on est sur des choses vraiment recherchées, puisqu'elles me disent qu'en effet, il faut que le vêtement soit porté pour qu'il se vende mieux, etc. Et on voit qu'il y a une montée en compétences et qu'il y a vraiment une recherche des répondantes et des pratiquantes pour vendre mieux leurs vêtements. Non, je peux pas en parler aujourd'hui, mais on verra aussi comment les plateformes, et c'est le sujet aussi, comment les plateformes vont permettre à ces jeunes femmes ou à ces femmes de monter en compétences. L'implantation, donc en effet, elles nous disent que par exemple dans les braderies, elles vendent les trucs qui ne sont pas à la mode, mais que dans les vide-dressing, elles mettent plutôt les belles pièces, etc. Donc elles sont assez. Elles ont bien compris aussi tout ce qui est implantation, type de site, format, etc. La communication, voilà, le type de communication pour un vide-dressing, donc c'est quand même. Pour des jeunes femmes qui sont pas issues de l'infographie, où on voit qu'elles ont quand même elles reprennent des codes qui fonctionnent bien. Donc communication, médias, hors médias, elles communiquent via Facebook, etc. Ensuite, personnel de service, méthode de vente. Alors ça, c'était assez rigolo. Il y a Florence qui nous dit, par exemple, moi, quand je fais un envoi, je mets un échantillon de parfum dans le colis, je garde les petits trucs de parfumerie, et moi aussi, ça m'arrive de recevoir mon colis avec un petit mot ou autre chose. On voit qu'elles ont, elles sont acculturées à des techniques de vente qui sont marketing, et qu'en fait, elles reproduisent elles-mêmes dans le système C2C. D'accord. Et au niveau des prix, alors là, je n'ai pas mis, mais on voit, elles mettent des affichages avec des prix. Si vous prenez deux t-shirts, 5 plus 5, elles disent, OK, je vous le laisse à 8. Bon, et puis elles disent, quand il y a quelqu'un qui vient souvent dans mon dressing, alors quand elles ont une petite boutique sur Vinted, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui vient souvent dans mon dressing, je lui fais des prix. Donc, en fait, elles ont aussi cet objectif de fidéliser leurs clientes par, en fait, une gestion des prix. Alors, elles connaissent parfaitement les prix, les niveaux de prix, neuf, occasion, etc. C'est vraiment assez impressionnant. Alors, ce qu'elles cherchent, c'est un moyen efficace de vider leurs armoires, parce que l'idée, c'est quand même de vendre le plus rapidement possible pour pouvoir racheter le plus rapidement possible. Alors, on a Léonie qui nous dit, oui, c'est de l'organisation de faire un vide-dressing, tu ne peux pas faire ça à l'arrache. Si tu le fais, il faut bien le faire. Alors, pour bien faire, les dispositifs socio-techniques, justement, sont très bien faits, puisque, par exemple, si vous tapez « conseil pour un vide-dressing » sur YouTube, vous avez, alors, excusez-moi, ça date d'il y a un petit peu plus de temps, c'est encore Enjoy Phoenix, je pense qu'elle a un petit peu passé de mode, mais enfin, dans les années 2014-2015, Enjoy Phoenix, elle faisait, alors, quand je tape, « conseil vide-dressing YouTube », en une demi-seconde, j'ai plus d'1,5 million de résultats. Donc, on sent qu'il y a quand même matière derrière. Et puis, Enjoy Phoenix, elle fait 424 000, presque 425 000 vues sur YouTube pour des conseils en vide-dressing. Donc, on ne fait pas ça n'importe comment. Si on ne fait pas de belles photos, ça ne partira jamais. Alors, encore une fois, tant mieux, vide-dressing vous donne des conseils pour faire bien vos photos. Alors, vous voyez, do, don't, etc., le guide photo. Et on voit comment les plateformes vont accompagner les pratiquantes du vide-dressing à monter en compétences pour bien vendre. Idem ici pour des pages sur Facebook. Alors ça, c'est une page qui est plus ancienne, qui date de 2014. Et ici, c'est une page récente de 2018. Vous avez remarqué que vous avez, ça y est, le bouton d'achat existe, puisque vous pouvez rentrer directement, c'est un peu flou, rentrer directement en contact avec le vendeur. Et puis, je n'ai pas pu mettre, mais si vous cliquez directement, vous avez un pré-message qui est déjà fait. Oui, ta veste noire m'intéresse. Est-ce qu'elle est toujours à vendre? Et vous cliquez. Donc, on voit vraiment que les dispositifs socio-techniques vont aussi venir permettre au vide-dressing de prendre de l'ampleur. Alors, elles cherchent aussi à gagner de l'argent, enfin à vendre leurs vêtements en gagnant un maximum d'argent. Alors, on a Estelle qui nous dit, oui, c'est une passion, c'est cool, je gagne de l'argent en m'amusant. J'ai un fichier Excel de ce que je gagne. Je trouve des produits très bien, je vois les opérations que je peux faire, je suis contente, je vais faire du business. Alors là, on s'éloigne vraiment de cette pratique romantique de la sharing economy, et on voit qu'elles veulent vraiment faire de l'argent. Elles mettent en place, par exemple ici, elles ont un fichier Excel, et il n'y a pas qu'elles qui me disent ça. Donc on voit que c'est organisé, qu'il y a des, C'est un jeu qui est très sérieux. Pour pouvoir acheter d'autres vêtements donc le plus rapidement possible, alors par exemple Florence, donc ça c'est une des premières que j'ai eu en entretien, et donc elle me dit là je suis à 2300 transactions sur eBay depuis 2006 et on était en 2013. Je regarde les marques, j'aime me sentir à la mode. Bon, c'est bête, mais je suis Lyon, j'ai besoin de parader. Alors, donc, il y a aussi des choses derrière sur l'identité, mais moi, j'y vais pas. Mais bon, 2300 transactions sur eBay, vous voyez que voilà, c'est pas une pro, elle travaille, donc elle fait ça en plus de son travail, mais on sent quand même que c'est une assidue du vide dressing. Et Stéphanie qui dit, c'est comme jouer à la marchande, ça prend du temps, mais ça m'apporte du plaisir. Donc il y a une dimension aussi derrière le vide dressing qui est à creuser. Alors pour résumer, Estelle nous dit, en fait, je pense qu'on se ressemble, donc elle parle des pratiquantes du vide dressing, je pense qu'on se ressemble parce qu'on aime toute la mode, les produits à la mode, on a les mêmes références de mode, on recherche toutes les mêmes marques, les grandes marques, pas chères. Alors, je n'ai pas pu tout mettre ici, mais alors les marques à la mode depuis 2013 qui ne bougent pas, c'est Sandro, Maje, Zadig et Voltaire. Donc, elles veulent toutes ces marques-là. Depuis plus récemment, je vois Bache, je vois Claudie Pierlot depuis un an. Mais autrement, la constante, c'est Maje, Sandro et Zadig et Voltaire. On connaît le marché, on fixe les prix. Sur le vide dressing, on connaît bien, on fixe les bons prix. Par contre, en braderie, on fait des bonnes affaires. Donc, on sent bien que le vide dressing, elles sont entre elles, c'est une communauté, et qu'on ne fait pas n'importe quoi dans le vide dressing. En vide dressing, c'est des personnes averties en mode. On se ressemble quand même pas mal. Moi, je vois les profils sur Facebook, je vois le genre des filles à la mode qui ont beaucoup d'amis et qui ont beaucoup d'habits. Voilà. Donc, vous avez un profil des pratiquantes du vide dressing. Alors, du coup, ma sharing economy et mes résistants, moi, j'étais devant mon terrain. Je n'ai pas de résistants sur ce terrain. Je suis face à des consommateurs marchands. Alors, la pratique du vide dressing, en fait, les pratiquantes du vide dressing reproduisent les techniques marketing auxquelles elles sont acculturées. Alors, je vous ai remis étiquetage, promo, merch, fidélisation. En fait, elles sont de véritables marchandes. D'accord ? Et je suis en train d'écrire la thèse. Ce que j'ai écrit, en fait, je me suis dit, en fait, c'est elles sont accros à l'achat et la vente de vêtements. En fait, c'est plus qu'à la mode, c'est à l'achat et la vente. C'est pour ça qu'elles sont de véritables marchandes. Quel rôle pour les dispositifs socio-techniques ? Alors, les pratiquantes doivent être performantes pour continuer à rester dans la course, c'est-à-dire pour continuer à vendre et à consommer. Leur graal, c'est consommer. Pour cela, elles cherchent à monter en compétences. Et du coup, quels vont être les dispositifs socio-techniques qui vont permettre cette montée en compétences ? Parce qu'il y a du monde aujourd'hui, elles me le disent, sur Vinted, sur Vestiaire Collective. En fait, il faut du coup avoir la bonne pièce au bon moment, au bon prix, etc. Donc, l'idée, c'est de comprendre, la recherche, c'est de comprendre par quel processus, en fait, ces consommateurs vont monter en compétences au point de devenir des consommateurs marchands. En fait, le gap qu'il y a dans notre discipline, en sciences de gestion, on dit oui, les consommateurs montent en compétences. Globalement, c'est accepté, le consommateur est compétent. Et en fait, l'idée, moi, ce que j'ai été chercher dans mon terrain, c'est par quel processus le consommateur monte en compétences et donc, en particulier, comment les dispositifs socio-techniques vont l'y aider. Donc, la problématique que je vous ai énoncée tout à l'heure, donc comment se construit ce consommateur marchand et donc une approche par les dispositifs socio-techniques dans le contexte de la consommation collaborative. Donc, en fait, la recherche, elle se recentre sur ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc, l'état de l'art, c'est les champs les champs académiques qu'on va investiguer. Donc, en fait, moi, j'ai fait le choix de 3 champs de recherche. Donc, la consommation collaborative, d'accord, je vous ai présenté. Les figures du consommateur avec des auteurs. Et en particulier, moi, je me suis intéressée au consommateur marchand, à la figure de l'entrepreneur. Et aussi, dans un troisième temps, la notion de dispositif. Alors, avec le dispositif va... la gouvernementalité en fait des individus, et je vais vous en parler très brièvement après. Donc en fait, la consommation collaborative est une notion. Alors ce que les données et la lecture en fait mon travail. Donc c'est en fait je vois que la consommation collaborative est une notion encore assez floue. Il n'existe pas à ce jour de consensus sur sa définition. Donc ça, c'est Herbert Collin-Lachaud 2017, ce qu'on appelle, je vais faire l'état de l'art de ce qui existe dans la littérature. Certains courants irriguent quand même ce mouvement de la consommation collaborative. L'économie de la fonctionnalité, vous en avez entendu parler, l'économie du don, la culture Internet et les communs. Donc ça, c'est Hawkier et d'autres auteurs qui ont écrit en 2007. Donc notre terrain monde des pratiques moins romantiques est plutôt axé sur la compétition. D'accord ? Dans la littérature, de nouveau, on nous présente des figures successives du consommateur. Ainsi, la construction d'un individu qui est dit « enterprising », donc c'est-à-dire un entrepreneur dans toutes les activités de son quotidien, se surpasser et être en permanence en compétition avec les autres, mais aussi avec soi-même. C'est le discours néolibéral qui a... Et donc, on sent que notre terrain relève, alors j'ai mis des disciples de cette théorie néolibérale, d'accord ? Plutôt que mes résistants au départ, j'ai plutôt ici sur mon terrain disciples de cette théorie néolibérale. C'est le « aide-toi toi-même ». La notion de dispositif, alors la littérature permet de définir précisément le concept de dispositif, alors c'est l'auteur vraiment très présent sur les dispositifs, c'est Foucault. Donc, nos observations et les entretiens montrent comment ces dispositifs construits par les consommateurs marchands, d'accord, puisque eux, ils se construisent des dispositifs. La page Facebook Lille Roubaix, c'est un dispositif socio-technique qui est construit par le consommateur marchand. Mais comment aussi ces dispositifs vont les construire en retour. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aussi, ils se construisent des dispositifs, mais en fait, ces dispositifs vont aussi, c'est dans le sens de Foucault, la gouvernementalité, vont les manipuler, les diriger. En fait, il y a une pluralité des dispositifs matériels et immatériels. Donc, les résultats, le dispositif, alors, il y a Foucault, il y a Agamben qui ont beaucoup travaillé sur les dispositifs, c'est quoi ? C'est tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Vous êtes plein, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, prenez bien, allez voir ce que dit Agamben. En fait, comment ? Alors, l'idée, c'est de comprendre comment ces infrastructures matérielles et immatérielles qui contribuent à la montée en compétence des pratiquants du vide dressing. Alors, c'est comment, en fait, les ordinateurs portables, les smartphones, le matériel qui permet l'organisation du vide dressing, mais aussi comment les représentations, les discours sur la consommation collaborative, le partage, le lien social, l'environnement, ou sur le néolibéralisme, l'entrepreneuriat, la performance, le dépassement de soi, comment en fait ces dispositifs vont modeler, contrôler, conduire en fait les pratiquantes du vide dressing. Voilà, donc les contributions les contributions de cette recherche, en fait, c'est de montrer, donc les auteurs ont déjà parlé de cette compétence des consommateurs, donc montrer cette compétence. On le sait aussi, il y a une incapacité à sortir du marché capitaliste et traditionnel, mais en fait, c'est aller chercher comment les dispositifs permettent cette montée en compétences et quelles sont les prises en fait qui rattachent le consommateur au système marchand. Donc voilà, donc les contributions de mon travail. Alors, un travail de recherche, ça commence, c'est le début. Il y a toujours beaucoup de limites et beaucoup de voies de recherche. Donc, moi, je sais que je suis sur un terrain particulier qui est le vide dressing et des pratiquantes assidues. Il faudrait peut-être investiguer d'autres terrains pour voir si on retrouve la même chose. Et puis, en effet, on voit que... Donc, ici, c'est Herbert et Colin Lachaud qui ont proposé ce modèle sur la consommation collaborative. On voit qu'il y a des degrés de socialisation, rôle actif et engagement plus ou moins fort, des logiques émergentes de marché traditionnel ou de marché alternatif. Alors moi, clairement, je suis dans une logique dominante de marché traditionnel avec un rôle, un engagement ouais, plutôt élevé, mais donc il faudrait peut-être aller investiguer d'autres terrains qui pourraient peut-être révéler d'autres résultats. Donc, la recherche, ça, pour moi, ça commence. Voilà. Et par contre, je voudrais donc vous remercier de votre attention et vous assurer que la relève est assurée, puisque dans les catalogues de jouets, eh bien, on a toujours une marchande. Hein, vous avez sûrement acheté une marchande à votre petite nièce, cousine, sœur. Que chez Nathan, il y a les Kiddy Doc et qu'il y en a un, je joue à la marchande. Que pour les ados, on a des mini-accros shopping, donc des petites séries, des petits livres qui expliquent ça. Et puis, au cinéma, on a aussi des best-sellers qui sont repris, les confessions d'une accro shopping. Donc, ça continue. Voilà, je vous remercie beaucoup.